télé-réalité, là,
Ouais.
qui est comme l'affilié de TVA. Puis ce qui m'a amené à la télé, c'est assez ridicule. C'est quand j'étais à l'université, je travaillais pour le journal étudiant, puis je travaillais avec mon cousin qui est journaliste sportif maintenant à Radio-Canada, qui couvre le Canadien, Marc-Antoine Godin. Puis lui, il voulait être écrivain à l'époque. Puis il écrivait tellement bien là, que je me suis dit, j'écrirai jamais assez bien pour être journaliste écrit.
Wow.
À la place, je ferai de la télé, tu sais. C'est comme ça que j'en suis arrivée à décider de faire de la télé dans la vie. Puis pendant l'été, il fallait une job d'été, ma première puis ma deuxième année de maîtrise. Puis dans ce temps-là, il y avait un bottin de toutes les stations télé et radio du Canada avec le nom des directeurs de l'information. Donc, j'étais allée à la bibliothèque de l'université, puis j'avais envoyé une lettre puis mon CV à tous les directeurs de l'information dans un rayon où je pouvais m'organiser. Puis CHOT m'avait rappelé. C'est vraiment un hasard, là.
Ouais. Puis est-ce que vous avez voulu être journaliste toute votre vie? Quand est-ce que c'est venu? Parce que j'ai vu que vous aviez étudié en littérature allemande ou en allemand, là, je...
Oui, ben non, en vérité, moi, je voulais être vétérinaire.
Oh, OK.
Des fois, je me dis que j'aurais dû être vétérinaire parce que j'ai une passion vraiment pour les animaux. Mais bon, mes parents m'ont découragée. Puis, j'allais pas devenir avocate puis médecin comme mes sœurs parce qu'il fallait quand même que j'affirme notre droit de faire ce qu'on voulait dans la vie.
Ouais.
Et l'idée d'être journaliste m'est venue, je m'en rappeler toute ma vie, en cégep 1. Fallait qu'on écrive, tu sais, des analyses de poèmes, là, tu sais, dans le cours de poésie, là, de français du cégep. Et j'adorais analyser, tu sais, le concept de prendre une idée puis de la décortiquer. Puis je me suis dit, ah, ben, quel métier je pourrais faire où je pourrais analyser? Je disais, ah, ben, je pourrais devenir journaliste. C'est comme ça que c'est venu.
Aussi rapidement. Est-ce que vous aviez à l'époque des journalistes qui vous ont marqué, que vous vous disiez, ah ben si j'étais journaliste, je serais exactement comme cette personne-là?
Plus ou moins. Moi, je venais d'une famille très politisée, là, tu sais,
Ouais.
puis il y a eu le lac Meech, puis le référendum de 80. En vérité, ouais, c'était surtout Meech, là, tu sais, l'époque où je suis devenue plus intéressée par la politique. Donc, on écoutait beaucoup les nouvelles, l'information. Donc, moi, c'est sûr que si je devenais journaliste, j'allais être journaliste politique ou correspondante à l'étranger, comme à l'époque, c'était Christiane Amanpour, tu sais, c'était la première femme
Ouais.
journaliste à la guerre du Golfe, etc. Donc, c'était un peu comme mes deux pendant, là, probablement comme beaucoup de jeunes de 19 ans qui veulent devenir journalistes. Là, c'est vraiment pas très original, là.
Non, mais je trouve ça intéressant. Vous avez un beau CV. Vous avez beaucoup d'études aussi. Mais les études allemandes, pourquoi vous avez été en études allemandes contemporaines?
C'est un peu débile, hein? Parce que je me disais que je voulais vraiment, je détestais mon honors en économie, ça m'intéressait pas, c'était comme plate à mort.
Ouais.
T'sais. Et donc, il fallait faire quelque chose d'un peu intéressant à l'université aussi en même temps. Puis je parlais déjà espagnol, puisque j'avais appris l'espagnol au secondaire. Fait que j'ai dit, c'est quoi l'autre langue à apprendre? Puis dans ce temps-là, j'étais super intéressée par l'histoire, la Deuxième Guerre mondiale, etc. Donc je m'étais dit, ah, ben, je vais apprendre l'allemand. Puis donc, il y avait une majeure hyper amusante à McGill qui était études allemandes contemporaines.
Ouais.
Donc, on apprenait l'allemand, on faisait de la littérature allemande, mais surtout, on avait plein de cours d'histoire du 20e siècle. Parce que l'Allemagne est quand même un acteur central de plusieurs pans de l'histoire du 20e siècle à l'époque. Donc, c'était comme une majeure assez intéressante qui suscitait mes différents champs d'intérêt. Je me suis dit, au moins, ça va me permettre de développer un minimum de culture générale, parce que c'est pas avec un honors en économie que vraiment, tu sais, tu élargis tes horizons intellectuels et culturels.
Êtes-vous toujours aussi intéressé et passionné par la politique? Puis pourquoi vous avez jamais fait de politique?
Oh mon Dieu, j'ai pas le courage de faire de la politique.
Le courage, ah ouais, OK.
Non, non, non. J'aurais trop peur de perdre. Puis la peur du re... Tu sais, c'est vraiment... Tu sais, imagine, là, ces gens-là, ils mettent leur job, leur carrière de côté,
Ouais.
font un saut dans le vide
Ouais.
pour une idée, puis la majorité d'entre eux, là, le soir du vote, ils ont perdu, là. Puis il y en a qui le font pour l'expérience, mais il y en a plein qui le font parce qu'ils pensaient vraiment gagner, là. Fait que... Moi, l'idée de vivre avec ce rejet-là, là, ça m'a toujours fait peur.
OK.
Donc, Je pense que c'est ce qui m'a bloqué avec l'idée de la politique, mais je trouve ça toujours aussi fascinant de la couvrir puis de l'analyser. Puis je pense que je vais toujours garder un immense respect pour les politiciens à cause de ça.
Ouais.
Parce qu'il y a un très grand risque qui vient avec le fait de se mettre sur la place publique, de défendre des idées controversées, de prendre les risques qui viennent avec comment essayer de vendre une idée. Et c'est comme un peu le moteur de notre société. Et si les gens n'essayaient pas, ils n'avaient pas l'audace d'essayer de faire ça, ben on n'aurait pas la société dans laquelle on vit.
Ouais.
C'est ça la démocratie. Donc, il y a quelque chose de beau et d'assez romantique en vérité là-dedans. T'sais.
Ouais. Hey, moi, j'ai une vision peut-être un peu plus noire de la politique, là. Peut-être parce que j'ai été trop souvent déçu, mais la passion, la politique, je trouve tellement que c'est important de s'y intéresser. À savoir, si je suis passionné de politique, j'aime mieux les motos, j'aime mieux les camions, mais la politique, j'ai pas le choix d'en parler, puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu plus en détail tantôt, mais la passion est toujours là, même après toutes ces années. Ça fait quand même plus de 25 ans maintenant là, que vous êtes là.
Oui, parce que c'est ce qu'il y a de vraiment intéressant avec le fait de couvrir la politique.
Ouais.
C'est que il n'y a pas une année qui ressemble à l'autre. Il n'y a pas une campagne électorale qui se ressemble. Il y a toujours des nouveaux enjeux. Donc, il n'y a pas de routine. Il y a une forme de routine là-dedans. Là, tu sais, genre, tu te lèves, tu écoutes les points de presse, tu écoutes la période des questions. Bon, ça, c'est mécanique. Mais intellectuellement, il n'y a pas de routine là-dedans. Puis, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est comme un château que tu construis au fur et à mesure de ta carrière. Parce que plus tu avances dans ta carrière, plus tu as un bagage d'expérience, de connaissances, de références qui te permettent d'encore mieux comprendre les enjeux, puis d'encore plus les analyser, puis les relativiser. Donc, c'est comme aller à l'école toute ta vie, en vérité, tu sais. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est intéressant. C'est parce qu'il n'y a pas de routine dans les faits. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Puis, ils évoluent avec le temps, puis ils évoluent avec la société aussi. Il y a des sujets qu'on aborde maintenant complètement différemment de comment on les abordait il y a 5, 6, 7, 10 ans. Puis, c'est ça, moi, que je trouve vraiment intéressant puis stimulant intellectuellement, tu sais.
Ouais. Ah, puis parfois, la fenêtre d'Overton se déplace, puis il y a des sujets qui arrivent. Puis, oh, tabarouette, on avait parlé de ça il y a 10 ans, mais dans les 10 dernières années, c'était pratiquement interdit de parler de ça, puis ça,
ça
revient, puis c'est plus tabou de parler, plus tabou de parler de ça. Est-ce que vous avez l'impression que la majorité des politiciens que vous avez rencontrés dans votre carrière, lorsqu'ils terminent leur carrière politique, est-ce qu'ils sont satisfaits réellement de leur bilan? Parce que j'ai rencontré beaucoup de politiciens qui se sont lancés en politique avec peut-être une idée. Vous allez peut-être me dire que c'était ça l'erreur. Ils avaient une idée, ils voulaient changer les choses, une chose. Puis, ils n'ont jamais réussi à le faire. C'est le cas, entre autres, de mon collègue Maître Marc Bellemare, avec qui je travaille depuis des années et des années. À chaque lundi, on parle de l'actualité, on parle de politique. Mais Maître Bellemare voulait abolir le « no fault ». Et c'était la raison pour laquelle il voulait s'en aller en politique. Et à un moment donné, ben Jean Charest, avec son équipe, a dit à Maître Bellemare, « Ce ne sera pas possible. Ce sera pas possible. » Et Maître Bellemare a dit, « OK, ben ciao, bye. » Mais il y avait une idée qui était sensationnelle, là, tu sais, ben, à ses yeux, à lui. Mais il a été très déçu.
C'est peut-être le risque de faire de la politique pour une seule idée, tu sais. Mais est-ce que c'est un échec de ne pas avoir réussi? Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de noble dans le fait d'avoir essayé, cependant.
Ouais.
Puis c'est ça, la politique, c'est pas juste de gagner, tu sais. La politique, c'est de contribuer au débat public. Moi, je pense que tous les politiciens, il y a plusieurs politiciens qui quittent la vie politique déçus, désabusés. Il y en a qui la quittent en n'ayant pas... Je pense que ça dépend des expériences de chacun. Tu sais, on va prendre un exemple. Prends Paul Martin, OK? Lui, il s'est lancé en politique, il voulait être premier ministre, il s'est ramassé ministre des Finances, puis il a réussi à assainir les finances publiques au Canada. Donc, je pense qu'il va quand même rentrer dans l'histoire comme, malgré la manière brutale avec laquelle il s'y est pris, là, comme un grand ministre des Finances qui a... déplacé le centre du débat, parce qu'avant-tiste, il fallait vraiment avoir le déficit zéro. Ouais. Non, lui, il a démontré que ça se faisait. Il a réussi à le faire. Donc, grand ministre des Finances. Son rêve, c'est d'être premier ministre. Puis comme premier ministre, il n'était pas un très bon premier ministre. Tu sais? Parce qu'il n'était pas capable d'établir des priorités. Il y avait 200 000 idées de ce qu'il voulait faire. Bon, il y a eu l'erreur de faire la commission Gomery, etc. Mais alors, est-ce que c'est quelqu'un qui, quand il a quitté la politique, il a échoué ou il a réussi? Mais c'est relatif, puis c'est comme ça, je pense, dans tout ce qu'on fait dans la vie, tu sais. Quand tu regardes le bilan d'une carrière, quelle qu'elle soit, il y a eu des grands moments, il y a eu des gros échecs, mais la politique, c'est un peu la même chose, tu sais, je pense. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut la voir, là. Les gens arrivent, réussissent à faire quelque chose. Prends Simon Jolin-Barrette en ce moment, là.
Oui.
Il a échoué à faire adopter sa constitution. Donc, pour lui, ça, je pense que ça va demeurer un grand échec professionnel et politique, parce que c'était vraiment son rêve, c'était son idée. Puis finalement, le gouvernement a attendu trop longtemps. Puis bon, ça finit avec ce qu'on sait, tu sais. Mais en même temps, est-ce que son passage comme ministre de la Justice est un échec? Non, il est un des ministres de la Justice qui a fait le plus de réformes, puis des réformes substantielles sur une foule d'enjeux, les droits des consommateurs, les victimes de violences conjugales, les victimes de violences sexuelles, il a modernisé le droit de la famille, donc il a été un grand ministre de la Justice. Donc, est-ce qu'il va être élu, est-ce qu'il ne sera pas au mois d'octobre, on verra. Mais peu importe, il n'aura pas fait tout ce qu'il voulait, mais il aura fait énormément quand même. Donc, je pense que ça dépend comment tu évalues ton passage en politique, tu sais.
Mais vous êtes
absolu, là.
Non, effectivement. Mais vous êtes toujours aussi passionné de politique, ça s'entend. Est-ce qu'on devrait peut-être amener nos plus jeunes, parce que je vais vous avouer très franchement des fois que quand j'écoute des vox pop, qui sont peut-être pas des études scientifiques, là, mais des fois il y a des vox pop ou des questions qui sont quand même assez simples, sont posées. Qui est le premier ministre du Québec ou qui est la première ministre du Québec? Qui est le premier ministre du Canada? Puis les individus qui sont à l'UQAM, exemple, pour ne pas nommer cette université-là, savent même pas c'est qui dirige le Québec. Est-ce qu'on devrait mettre plus de cours de politique, que ce soit politique municipale, politique provinciale, fédérale, même à l'international, à un très bas âge pour tenter de former les cerveaux de demain à ce qui s'intéresse à la politique, puis la politique active, puis qui s'implique?
Est-ce que c'est par les cours? Moi, je pense que le problème au Québec est plus profond que ça, en vérité. Je ne serais pas populaire en disant ça, là, mais je pense qu'on a un problème de culture générale au Québec. Et si tu n'as pas les fondements d'une culture générale, tu ne peux pas comprendre la politique. Puis on n'est pas dans une société qui valorise la profondeur de la culture générale. Puis je fais la comparaison avec... moi, mes parents sont de la génération où ils ont fait leur cours classique, tu sais. Il y avait une profondeur de culture générale qui venait avec cette éducation-là qui te portait pour le reste de ta vie, tu sais. Regarde le système d'éducation en France qui, dans mon esprit, est un système extrêmement violent dans la façon dont on traite et on force l'apprentissage. Mais ceci étant dit, les enfants qui terminent l'équivalent, leur bac, l'équivalent de leur secondaire ou leur cégep, ils ont une culture générale 1000 fois plus approfondie. Va dans n'importe quel village de France, puis fais des vox pop. Ils vont savoir c'est qui le premier ministre, ils vont savoir, ils ont des notions de base quant à leur histoire, quant au fondement de où ils viennent. Puis ça, moi, je pense que c'est une des grandes, grandes lacunes de notre système d'éducation, mais de notre société plus largement. Tu ne peux pas tout mettre sur le dos du système d'éducation à un moment donné. Je pense qu'on vit dans une société où la priorité, c'est de consommer, c'est d'acheter, c'est de veiller à son bonheur matériel immédiat. Et c'est une société qui ne cultive plus les notions de culture, d'histoire, de tout ce qui relève de l'intellect, là. Puis je veux pas avoir l'air élitiste, mais j'assume que je suis là-dessus.
Non, mais quiconque a déjà rencontré un enfant...
Tout le reste de la société, tu sais.
Quiconque a déjà rencontré un enfant français se rend compte à quel point ils ont un vocabulaire qui est archi plus développé que le vocabulaire des petits Québécois. Il y a peut-être des raisons à ça, là. Si vous avez les réponses, vous m'écrirez ce soir.
Mais on n'en parle pas au Québec parce que
on est gêné.
C'est comme c'est un tabou parce que ça serait faire preuve de mépris envers le peuple québécois puis la nation québécoise, alors que moi, je trouve que la façon de... Tu sais, notre langue est tellement belle, notre culture, notre histoire, c'est tellement extraordinaire que il faut l'approfondir. Puis moi, je le remarque, là, tu sais, c'est ma job de couvrir la politique, ça m'intéresse depuis longtemps, puis je suis allée dans, tu sais, parmi les meilleures écoles là, où tu peux aller au Québec, puis j'ai pas eu ces notions-là de la, tu sais, de comprendre, puis que notre histoire à nous, là, nous habite, nous façonne. C'est par le biais de ma carrière, de mon travail, de tout le reste que j'ai compris ça, puis c'est pas normal, ça.
Il y a quelqu'un dans le milieu des médias qui savait que j'allais vous rencontrer ce soir, puis elle dit « Est-ce que tu peux poser une question? » Fait que je vais la poser, cette question-là. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle voulait savoir... Est-ce que les choses ont changé pour Emmanuelle Latraverse quand elle est passée de journaliste à analyste? Est-ce que les gens qui travaillent en politique vous percevaient autrement parce que maintenant vous étiez analyste plutôt que journaliste?
Non, parce que la transition, c'est pas fait du jour au lendemain, tu sais. Je suis pas comme... J'étais pas journaliste qui allait en voyage avec le premier ministre puis qui faisait des reportages puis des directs dans le bulletin de nouvelles à analyste, tu sais. Il y a comme une transition où j'ai fait, tu sais, je faisais les reportages, tu sais, je faisais certains reportages, je faisais de l'analyse dans d'autres. Donc, finalement, c'est une transition qui s'est faite plutôt graduellement. Puis, dans les faits, je demeure journaliste. Tu sais, je suis pas... c'est sûr que... Dans le monde d'aujourd'hui, il y a une plus grande part d'opinion, je pense, dans l'analyse politique qu'il y en avait à l'époque où j'ai débuté dans le métier il y a près de 30 ans maintenant. Mais la démarche, c'est la même. T'sais. Moi, quand je... T'sais, la routine de ma journée est la même de 7 heures le matin jusqu'à 3 heures l'après-midi. C'est d'écouter des points de presse, c'est de faire la recherche, c'est de parler au téléphone, c'est de m'informer. La différence, c'est qu'à une époque où à 3 heures, je m'assoyais à mon bureau, puis j'écrivais un reportage, un topo qu'on montait pour le bulletin de nouvelles qui faisait 2 minutes.
Ouais.
Alors que maintenant, la différence, c'est que je vais sur des panels, je fais de la radio, donc je suis seulement dans le parler, si on veut, plutôt que dans le strictement raconter.
Ouais.
Mais dans les faits, la démarche intellectuelle... Puis la démarche, elle demeure journalistique parce que je suis journaliste, puis ça, je pense que je vais toujours l'être, tu sais. Il y a des gens qui sont analystes politiques ou commentateurs politiques qui viennent du milieu, tu sais, du giron, de la filière politique. Ça serait intéressant, je ne leur ai jamais demandé comment ils se préparent, eux autres. Je suis sûre qu'eux, ils ne passent pas la moitié de leur journée à écouter des points de presse.
Mais la réaction des gens qui sont au gouvernement, quand ils parlaient à Emmanuelle Latraverse, qui était journaliste, ils savaient qu'Emmanuelle Latraverse allait rapporter le factuel, les fameux 5W qu'on connaît. Tu sais. Mais maintenant, vous pouvez rapporter, tout en étant commentatrice, vous pouvez rapporter les 5W, mais en donnant votre opinion, est-ce que vous avez eu accès plus facilement aux grands du Québec ou c'est devenu un peu plus difficile parce que maintenant vous êtes analyste?
Non, c'est plus facile parce
c'est
que
plus
je
facile.
Suis vieille, ouais. j'ai un nom, j'ai une plateforme comme celle de TVA. Donc, j'ai surmonté ma peur d'appeler les gens dans la vie. Donc, ça aide toujours. Mais dans les faits, tu sais, quand tu fais un reportage, là, c'est pas vrai que c'est seulement les 5W, tu sais. Parce que... Un reportage télé, là, si mémoire est bonne, incluant les consignes de montage, okay, la transcription des clips, Et toute ta narration, c'est à peu près 500 mots ou 550 mots. Donc, dans les faits, pour être capable de dire beaucoup dans très peu de mots, il faut que tu comprennes vraiment le fond de l'affaire. Donc, il faut que tu l'aies analysé, la nouvelle, pour être capable de faire un bon reportage. Parce que sinon, tu sais, c'est la première ministre est pointée au point de presse. Tu sais, si tu ne veux pas faire ça, puis surtout, moi, c'est mon mari qui m'a enseigné ça, mais quand tu as la télé, tu as le bénéfice des images, tu peux faire raconter une histoire à tes images. C'est pas seulement du papier peint, là, tu sais, pour... Donc, si tu apprends, moi, c'était mon plaisir d'écrire pour la télé à l'époque. C'est ce qu'on appelle en anglais « right above the pictures », tu sais. Fait qu'au lieu de dire « le premier ministre est arrivé à la Chambre des communes », mais tu regardes comment il marchait, le premier ministre, tu sais. Était-tu de bonne humeur? Était-tu de mauvaise humeur? Tu sais, puis là, tu vas dire « le premier ministre, tu sais, portait le poids d'une décision difficile ». Mais ça, là, ça dit beaucoup, déjà, là. Alors, réussir à faire ça quand tu es journaliste puis que tu fais du reportage télé, bien, ça exige tout le même travail que de faire de l'analyse. La seule différence, c'est quand tu fais de l'analyse, après ça, tu fais le petit saut dans le vide à la fin, tu sais, que tu ne te permets pas de faire quand tu fais juste du reportage factuel.
Quels sont les politiciens qui vous ont le plus marqué, avec lesquels vous avez eu la chance de travailler?
Les plus marqués.
Un Parizeau, pour moi, est un monument. J'ai pas eu la chance de jaser avec M. Parizeau, mais c'était tout un monument.
Oui, mais moi, j'ai fait la plus grande partie de ma carrière à Ottawa. Hein. Donc, j'ai pas eu ces genres de... la profondeur de compréhension d'un personnage politique. Il faut que tu les côtoies, les premiers ministres ou les politiciens. Je dirais que c'est difficile à dire. Lequel m'a le plus marqué? Peut-être Michael Ignatieff pour sa naïveté.
Oh, OK.
C'était un politicien, tu sais, qui a comme. C'est un peu genre le prince que tu viens recruter, là, tu sais. C'était le grand intellectuel, tu sais, c'est l'ultime Canadien, globe-trotteur, qui a eu des postes dans les plus grandes, tu sais, dans les universités, à la BBC. Tu sais, il y a une feuille de route qui ferait comme rêver n'importe qui est à cheval en tête journaliste, intellectuel, prof d'université. Puis il est comme arrivé, puis il avait une espèce de... Il était comme porté par une vision très romantique de ce qu'il pourrait faire comme premier ministre. Puis la politique et la joute politique l'a complètement bouffé. Puis c'est assez... C'est fascinant de voir ça. Parce que moi, j'avais... Comme il avait été candidat à la course à la direction, je l'avais suivi, tu sais, dans les... Tu sais, le genre de truc qu'il n'a jamais couvert, le genre... candidat à la course à la direction qui va au club de l'âge d'or de Victoriaville, tu sais. Puis il était là, puis il y avait comme... Tu sais, c'était pas des profs d'université, là. Tu sais, c'est la classe moyenne de Victoriaville, là, du monde de 60 ans et plus, là. Puis il était accroché à ses lettres. Il était comme « Wow! » Là, le monde, il trippait. Puis dès qu'il est rentré, puis qu'il a gagné, puis qu'il est rentré dans le moule du politicien, il a perdu. C'est comme s'il savait plus qui il était, il savait plus quoi faire, puis... Il y a eu quelques... C'était vraiment intéressant, je pense, à voir. Puis ça m'a toujours rappelé. Puis on le voit maintenant, parce que maintenant, on est vraiment dans une ère de l'authenticité des politiciens. Puis à quel point un politicien, il faut qu'il reste lui-même pour être bon, tu sais. Puis c'est très difficile. Ça augmente le niveau de difficulté parce que faut que tu sois toi-même au moment où le public... veut le toi que t'es, tu comprends-tu? Fait que, regarde ce qui est arrivé à M. Legault, tu sais. M. Legault, il a toujours eu un côté un peu bine sur le bras, tu sais, mes paroles dépassent un peu ma pensée.
Gaston Lagaffe.
Mais pas Gaston Lagaffe, mais, tu sais, c'était l'émotion qui comptait, puis les détails, là, c'était pas grave, là, tu sais, c'était... Puis ça, c'est ce qui a fait son charme. C'est ce qui fait que les Québécois ont voté pour lui massivement. Là. Donc, il y a eu un moment où ça marchait, ça. Puis là, mais il y a un moment où ça ne marche plus, l'authenticité de Legault, puis les gens veulent d'autres choses. Donc, c'est très difficile pour les politiciens maintenant. Parce qu'il faut que non seulement il y ait les bonnes idées au bon moment, puis qu'ils sachent les vendre, mais qu'il faut que leur personnalité réponde à ce que les gens veulent à ce moment précis-là. Alors, il y a comme un rendez-vous avec l'histoire dans le fait d'être capable de gagner une élection. Puis, dans mon esprit, pour revenir à Michael Ignatieff, c'est comme le rendez-vous manqué, cet homme-là, tu sais. La même façon que Pierre Poilievre, c'est le rendez-vous manqué. Tu sais, il était, les gens aimaient son côté vindicatif, pugiliste, pas au Québec, là, parce qu'on... mais ailleurs au Canada, puis son côté bataille de ruelle, tu sais, parce que ça reflétait la colère des gens en ce moment-là, puis ça a pris 2 mois pour que ça soit plus la chose à faire, tu sais. Alors, moi, je trouve que c'est ça qui est intéressant aussi, tu sais, c'est que les gens qu'on choisit comme politiciens sont un reflet de la société à un moment donné. Puis l'art de gouverner, c'est l'art de faire durer ce moment de grâce-là le plus longtemps possible pour en accomplir le plus possible dans cette fenêtre qui t'est accordée.
Je serais curieux de vous entendre, Emmanuel Latraverse, sur Mark Carney qui vit une idylle avec les Canadiens présentement. Les gens semblent être extrêmement satisfaits du premier ministre du Canada, même si pour d'autres qui ont peut-être d'autres critères, les négociations entre autres avec l'OCEUM, ben on a l'impression que Mark Carney n'a pas nécessairement amélioré la situation du Canada depuis le départ de Justin Trudeau. Il y en a qui vont dire « ouais, moi je suis de droite économique, c'est la dette, il nous a endettés encore plus en raison des déficits astronomiques ». Qu'est-ce que vous pensez de Mark Carney? Est-ce que ce petit rêve-là qu'il est en train de vivre, ça va durer encore des années?
Non. Ça ne peut pas durer des années. Non. Vu l'art de gouverner, c'est de le faire durer le plus longtemps possible. Mais Mark Carney, c'est drôle, on parlait de Marc Bellemare, tu sais, un peu plus tôt, qui est rentré en politique avec une idée, le no-fault, puis ça n'a pas marché. Puis Mark Carney, il est rentré en politique avec une idée. Puis son idée, il la met en œuvre. Puis il y a juste ça qui compte. Donc, c'est comme un... Tu sais, il y a une discipline dans l'action qu'on voit rarement chez les politiciens, je pense. C'est un politicien qui déteste la joute politique. Puis je pense que la raison pour laquelle dure sa lune de miel, c'est que l'électorat a compris ça de lui. Puis moi, je ne suis pas de ceux qui souscrivent à l'idée que les gens... Tu sais, l'électorat n'est pas niaiseux, là. Les gens n'ont pas voté pour Mark Carney parce qu'il allait... Tu sais, pour la seule raison de régler le libre-échange avec Donald Trump. C'est très réducteur. Moi, je pense que les gens ont voté pour Mark Carney pour la raison plus large qu'ils ont vue en lui, quelqu'un qui avait les compétences pour naviguer dans la tempête. Puis, ils ont vu en lui quelqu'un qui avait un plan de match pour naviguer dans la tempête. Puis, c'est un premier ministre qui gouverne avec comme seule priorité exécuter son plan de match dans la tempête. Maintenant, il y a d'autres choses qu'il faut gérer, que ce soit, les enjeux sur les médias sociaux, par exemple. Fallait faire une réforme du droit criminel, là, puisque vraiment, les libéraux de Justin Trudeau étaient allés bien trop à gauche. Puis, non, ça, là, il se fait une idée, il donne ça à son ministre. Tu sais, il y a comme une équipe qui gère ça, mais lui, ouais. Sa raison pour être en politique, c'est de moderniser l'économie canadienne. C'est de bâtir des grands projets, c'est de nous faire sortir de l'immobilisme permanent qui fait que dans ce pays-là, on n'est pas capable d'ouvrir une mine en moins de 15 ans, tu sais, puis qu'on n'est pas capable de construire des pipelines, puis qu'on n'est pas capable de rien faire parce que, oh, mais je ne sais pas, mais tu comprends, mais... Alors, lui a décidé qu'il allait comme rentrer là-dedans avec un bulldozer, puis qu'il allait essayer de faire... Est-ce que ça va marcher? Il est trop tôt pour le voir, puis il est trop tôt. Mais je pense que c'est cette discipline, c'est ce c'est ce focus-là qui est comme un laser dans sa façon d'agir que les Canadiens voient en ce moment. Puis c'est rare qu'un politicien ait le privilège de pouvoir être élu avec sur une seule idée, en vérité, et a la discipline ou la confiance en lui, ou appelle ça comme tu veux, de ne pas trop se badrer du reste, tu sais?
Non, je comprends.
Et c'est ce qui caractérise, je pense, son gouvernement. Il dirige le pays comme un PDG. Puis ça répond aux attentes des gens en ce moment. Les gens ne veulent pas quelqu'un de sympathique. Les gens ne veulent pas quelqu'un qui les comprend. Les gens veulent quelqu'un qui va veiller au grain puis qui va faire ce qu'il faut. Puis c'est évident parce que, je veux dire, il ne parlait pas français. Il a pas donné dans... Tu sais, il était comme... Son absence de compréhension du Québec, de sa culture, de son histoire, je veux dire, c'est flagrant, là, tu sais. Puis les Québécois ne lui en tiennent pas rigueur. Mais tu sais, c'est pas parce que les Québécois, c'est décolonisés, là. Je veux dire, c'est tellement réducteur de dire ça. Parce que les Québécois, en ce moment, ils disent, ben, regarde, c'est pas ça qui compte, tu sais. Lui, c'est pas pour ça qu'on l'a embauché, tu sais. On avait embauché Justin Trudeau parce qu'il était beau, puis il nous faisait rêver, puis tu sais, tout le monde allait s'aimer, puis on allait lutter contre la pauvreté, puis on allait, tu sais, lutter contre les GES, puis tout allait, tu sais, les valises ensoleillées, Sunny Ways, etc. Bon, ben, ça fait de son temps. Maintenant, on veut comme une machine qui gouverne, puis ben, c'est la machine, elle s'appelle Mark Carney.
Est-ce qu'il reste encore 2 ans à Pierre Poilievre?
Je sais pas.
Parce qu'à l'interne, il y a de la grogne. C'est incroyable. Moi, je l'entends au Québec. Dans l'Ouest canadien, on me dit qu'il y a des gens qui sont très mécontents de ce qui s'est passé dans les dernières semaines, les derniers mois. Est-ce qu'on va lui trouver un successeur? On parle de la famille Mulroney. Il y en a deux qui seraient prêts à peut-être se présenter à un moment donné.
On voudrait... Les conservateurs, plutôt, voudraient... que Pierre Poilievre change. OK? Mais on n'aurait jamais fait de François Legault un intellectuel.
Non.
OK? On fera jamais de Mark Carney un homme chaleureux, à la Justin Trudeau, hyper charismatique. Mais tu ne peux pas changer Pierre Poilievre. Il est qui il est, là. Je veux dire, il s'est construit comme ça. Ça vient de sa, je pense, de sa propre histoire. Ça vient de sa vision du Canada. Donc, tu peux pas le changer. Tu peux essayer d'arrondir les coins un peu, mais... Sauf que le problème, c'est que c'est une coalition conservatrice qui est extrêmement complexe à diriger, qui est un parti très idéologique, un peu comme le parti, le PQ. Donc, ce n'est pas un parti de pouvoir, c'est un parti d'idéologie. Puis donc, les partis d'idéologie ont des bases militantes très fortes. Et comment tu fais pour réconcilier tout ça dans une formule qui te permet de prendre le pouvoir? Donc, lui, il avait trouvé une formule qui misait sur le rejet de Justin Trudeau. Et puis là. Puis là, maintenant... Je ne sais pas s'il va passer au travers. Mais puis je pense que ce qui va déterminer de si ce qui va passer au travers ou pas, c'est est-ce que les stratèges ou les forces vives ou les vieilles mains conservatrices, appelle ça comme tu veux, c'est la détermination. Est-ce que Mark Carney, c'est une prolongation d'un cycle libéral? Dans quel cas il y aurait des bonnes chances de perdre aux prochaines élections, parce qu'il y a quand même une limite. Ou, et là, ça vaut la peine d'avoir un nouveau chef pour avoir des chances de gagner. Ou est-ce que Mark Carney, c'est le début d'un nouveau cycle?
Ben moi, je pense que c'est une nouvelle ère, Mark Carney. Là.
Ben, si Mark Carney, c'est une nouvelle ère, tu vas brûler un autre chef de parti aux prochaines élections? C'est un peu ça, je pense, le dilemme auquel réfléchissent les conservateurs en ce moment. Puis Mark Carney n'est pas... On vient de voir que Mark Carney n'est pas à l'abri de mauvaises décisions au point de vue politique? Puis est-ce qu'après un an et demi, un an à marcher sur l'eau, moi, je pense que c'est la prochaine année qui va le déterminer. Puis je vais donner un exemple, c'est un enjeu dont on n'a vraiment pas parlé au Québec, OK? C'est assez intéressant. Mais à Toronto et à Vancouver, il y a eu une immense crise du marché du condo, OK? Il y a eu tellement de spéculation, puis la crise du logement, puis la blague. Il y a d'immenses condos, là, des gros développements de condos qui sont construits, qui sont à moitié vides maintenant. OK? Parce qu'ils ne sont pas capables de les vendre. Donc, les développeurs pas capables de les vendre n'ont pas les moyens de développer des nouveaux projets. Tu vois, c'est comme ils sont dans leur propre cycle vicieux. Puis en même temps, il y a une crise du logement dans ces villes-là parce que ça coûte tellement cher habiter là. Et l'idée, donc, du gouvernement, entre autres avec la Colombie-Britannique, ça a été de dire on va mettre de l'argent pour les racheter, les condos qui sont vides. OK? Puis on va les transformer en logements abordables que les gens vont louer pour acheter. Alors, tu payes le loyer autant que tu peux. Ça te permet d'économiser, de faire ta mise de fonds. Puis quand tu as assez d'argent, tu pourras racheter, puis la part que tu auras payée en loyer sera déduite du prix. Donc, aux yeux de certains, c'est une super façon de permettre à des gens de graduellement rentrer sur le marché, d'utiliser pour loger des gens des condos qui sont vides. L'envers de la médaille, c'est que c'est vu comme un bail-out, là, tu sais, une façon de sauver des développeurs qui ne veulent pas baisser le prix de leur condo pour les vendre. Donc, c'est très controversé, cette idée-là. Est-ce que ça va avoir des jambes ou pas? Je ne sais pas, on est au milieu de l'été, peut-être que ça va complètement passer au travers, puis on avisera. Mais il n'est pas à l'abri, Mark Carney, de décisions politiquement très risquées, qui sont le genre d'enjeu qui donne des ailes au Parti conservateur. T'sais. Alors, est-ce qu'il va avoir un enjeu qui va permettre à Pierre Poilievre de retrouver une poignée à laquelle accrocher la pertinence de son style politique pour relancer son leadership? Je ne sais pas, puis toi non plus.
Who knows? Who knows?
Who knows?
Christine Fréchette est à la tête du gouvernement depuis déjà quelques semaines. Je ne croyais pas dire ça à un moment donné, mais elle fait le maudit bel job. Elle tente le tout pour remonter dans les sondages. Est-ce que ce sera suffisant pour repasser aux prochaines élections? Seul l'avenir nous le dira. Comment trouvez-vous, Mme Latraverse, l'arrivée de Christine Fréchette? De quelle façon elle s'est adaptée selon vous? Puis est-ce qu'on pourrait peut-être avoir aux prochaines élections un gouvernement de la CAQ minoritaire? C'est une chose possible?
Écoute, elle a, pour une politicienne qui n'a pas d'instinct politique, OK? Ce n'est pas une machine politique, Christine Fréchette, là, OK? Ce n'est pas un Bernard Drinville, c'est pas un François Legault. On voit la quantité de travail qu'elle a abattu sur apprendre à vraiment être une politicienne. Pas juste être la ministre première de classe qui se promène avec ses petits dossiers, là. Puis, donc, la progression dans son apprentissage, je pense, de la politique depuis les débuts de la course à la direction jusqu'à maintenant, sont vraiment remarquables. Qu'on soit d'accord ou pas, là, je peux parler strictement en termes de performance. Est-ce qu'elle va réussir à bâtir une équipe qui va permettre au moins de convaincre les gens d'un renouvellement réel à la CAQ? Je pense que cette question-là est encore en suspens. Puis, c'est très difficile de faire des prédictions sur la campagne électorale. Je vais t'expliquer pourquoi, parce que d'un, j'ai ça, puis je ne suis pas bonne là-dedans, mais de deux, je vais donner une réponse plus profonde. Il y a 5 partis politiques au Québec. Donc, tu peux gagner un comté avec probablement 26-27% des voix, dépendant de où tu es. Puis, en vérité, il n'y aura pas une campagne électorale au Québec. Il va y en avoir l'île de Montréal. Le 4-5-0, ça fait 2. La région de Québec, ça fait 3. OK? L'Outaouais, ça fait 4, certainement. Puis après ça, mettre sais, ce qu'on appelle les régions, là, tu sais. Puis, tu sais, mais Outaouais puis Canton de l'Est, ça se ressemble, là, tu sais. Fait qu'on est rendu à quoi, 5-6, là? Et dans, bon, ça dépend de si la CAQ est capable d'avoir les bons candidats dans les bons comtés et capable de mettre les ressources stratégiquement aux bons endroits. Parce que ça va être des courses à deux et des courses à trois qui ne seront jamais les mêmes dépendant de où tu es. Puis là, à un moment donné, il y a une part de chance là-dedans. Là. Tu sais, quand tu peux gagner avec 27 % ou 26 % du vote, là, c'est des comtés qui se gagnent par moins de 2000 voix, là, ça. Fait que, puis la grande question, moi, je pense, sur cette campagne électorale-là, c'est jusqu'où est-ce que la question référendaire va redevenir le boulet que ça a traditionnellement été pour le PQ en campagne électorale. Surtout à la lumière de l'appui à la souveraineté en ce moment. Puis, est-ce que le PQ va trouver une façon de, tu sais, de faire une passe de judo, là, tu sais, avec ça, pour pas que ça plombe ses appuis, puis pour que les gens soient prêts à dire, c'est-tu, on va voter PQ, puis on verra le référendum après? Ou est-ce qu'il sera pas capable de faire ça? Donc ça, c'est deux, tu sais, c'est des éléments qui vont déterminer l'histoire de la campagne électorale. Donc, le travail de Mme Fréchette jusque-là, c'est, j'espère pour eux, d'avoir une super plateforme électorale qui permet d'aller ailleurs puis de montrer qu'ils ont appris de leurs... Tu sais, que c'est plus la même CAQ, mais c'est encore la CAQ, tu sais, si tu veux, là. Puis d'avoir des bons candidats. Puis après ça, sa job, ça va être de coaliser le vote anti-PQ. Donc, c'est pas impossible qu'elle réussisse à le faire. C'est pas, ce qui n'est pas impossible, c'est qu'elle sauve son parti de l'éradication.
L'éradication complète.
Avec un parti libéral qui ne semble pas vouloir décoller, puis là, j'ai vu, ouais. Il y a quoi, il y a une autre candidature qui s'est désistée, je veux dire, c'est ouais. Comme un... Alors, ça va être une campagne vraiment intéressante.
Est-ce que les performances de Charles Milliard, qui jusqu'à maintenant ne se sont pas concrétisées, ces performances-là, en termes de vote ou d'intention de vote, est-ce que ça peut aider la coalition Avenir Québec? Est-ce qu'il y a des libéraux qui vont dire, oh, regarde, moi, là, je regarde Charles Milliard, je suis un peu déçu, je vais aller faire un tour à la CAQ?
Ben, c'est surtout, je veux pas que le PQ gagne, je vais aller faire un tour à la CAQ. Hmm. C'est ça, ça va devenir ça l'histoire. Tu sais, il y a une grosse partie de l'histoire de la campagne électorale. Ça va être quel parti peut coaliser le vote anti-PQ, le vote anti-référendum. Et moi, ce que je ne comprends pas dans la stratégie de Charles Milliard et du Parti libéral, c'est je ne sais pas c'est quoi encore le projet derrière le Parti libéral. Tu sais, tu peux dire région tant que tu veux, là, mais... Il n'a pas réussi, tu sais, on va construire 100 000 logements, mais ce n'est pas un projet de société.
Non.
Puis c'est sûr que c'est injuste parce que Mme Fréchette, elle n'a pas à le faire parce qu'elle est au pouvoir, tu comprends-tu? Lui, il est la page blanche, mais quand tu as la page blanche, tu as l'obligation d'arriver avec un projet. Éric Duhem, là, tout le monde sait ce qu'il sait, là. Tu sais, tu n'as pas besoin d'avoir écouté la joute pendant un an pour comprendre qu'est-ce qu'il veut dans la vie, Éric Duhem. Tu sais, Christine Fréchette, c'est la CAQ, c'est l'économie, mais tu sais, c'est comme, c'est être ultra-nationaliste, mais sans la souveraineté. Tu sais, c'est un peu ça, là. Tu sais, c'est le in-between, là. Mais c'est quoi le Parti libéral? Demande à des gens qui ne sont pas des libéraux, ils vont pouvoir, ils peuvent te décrire la CAQ, ils peuvent te décrire Québec solidaire magnifiquement bien, peuvent certainement te décrire le PQ, peuvent te décrire la CAQ, le Parti conservateur, mais le Parti libéral? Ils
ne savent pas.
T'sais, il faut qu'un parti puisse être incarné par une phrase, une idée, un concept à un moment donné. Puis le Parti libéral, malheureusement, en ce moment, on ne le voit pas.
Je serais curieux de vous entendre, parce qu'on parle de plusieurs batailles. Là. Québec, c'est Parti québécois et Parti conservateur du Québec qui sont à peu près les partis les plus privilégiés dans la région de Québec. Et je regarde Montréal, on est très dans le rouge à Montréal. Pourquoi un Éric Duhem ne passe pas à Montréal? Qu'est-ce qu'il y a de dangereux à Montréal pour Éric Duhem? Les auditeurs n'ont pas la chance de vous voir. Moi, j'ai la chance de vous voir, Mme Travers.
Je pense que, premièrement, Éric Duhaime est un enfant de Québec, entre guillemets, là, à cause de sa carrière à la radio et tout ça. Je pense que la... Le... C'est ce que j'appellerais... Vous n'avez pas de plateau Mont-Royal, vous autres, tu sais, puis d'Outremont. Vous avez un Outremont, là, à Sillery, mais c'est pas le même Outremont que l'Outremont, tu sais. Vous n'avez pas les francophones qui habitent... Tu sais, vous n'avez pas... je pense que Montréal est, veut pas, une ville qui... idéologiquement, plus... bourgeoise et conservatrice que Québec. Il n'y a pas ce filon contestataire, je pense, à Montréal, comme il y a dans la région de Québec. Et donc, c'est ce qui fait qu'il passe moins bien. Puis je pense qu'il paie le prix d'être vu comme une bébite de Québec. Tu sais, à Montréal, Duhaime est vu... Ah oui! Ça, c'est le gars de Québec. C'est le gars qui a juste des chances à Québec. Donc, il n'a pas... Il n'est pas capable de percer parce qu'il n'est pas vu comme étant pertinent dans l'écosystème politique de Montréal. Alors qu'à Québec, il est un des gros joueurs. Puis, tu sais, il est un acteur... important, puis il y a des chances de percer, etc., etc. À Montréal, il n'est pas là encore.
Est-ce que les médias ont une responsabilité dans ça?
Moi, je ne suis pas dans le game de beurre, mais les médias, pas parce qu'on n'est pas à l'abri des erreurs, là, mais je pense sérieusement, moi, je ne peux pas parler pour les autres. Je peux parler pour le réseau pour lequel moi, je travaille. Je pense que, sérieusement, Éric Duhaime et ses idées ont eu un temps d'antenne plus équitable sur nos ondes depuis un an et demi. Justement, parce qu'il incarne une part de... Tu sais, il mérite sa place dans le débat public au même titre que les autres partis à cause des appuis qu'il a. Mais je pense que c'est parce que dans l'ensemble du Québec, il est vu comme étant un épiphénomène de la région de Québec.
Je comprends très bien. On va faire une courte pause. Je rappelle que ce soir, j'ai la chance, peut-être aussi vous autres, je pense que aussi, on a la chance de jaser avec Emmanuel Latraverse, qui a été journaliste pendant des années et qui aujourd'hui, on est content de ça, est rendu analyste politique. On va faire une très courte pause, puis on vient tout de suite après avec elle.
Marceau, le soir. Gravel, dans le retour.
Salut, c'est Denis. Écoutez, je voulais rester tout l'été avec vous autres puis faire de la radio, mais les demoiselles d'honneur de Gravel dans le retour ont exigé que je prenne au moins une couple de semaines de congé.
C'est tellement du gros n'importe quoi. Mais de toute manière, nous, on va être de retour le 3 août. Audrey?
Profitez de votre été d'ici là. On vous lâche pas à Boulevard, évidemment. Denis travaille pas, mais Véro puis moi, on continue. Fait qu'on va vous accompagner à travers la programmation jusqu'au 3 août.
Faites-vous-en pas. Quand Denis va revenir, nous autres, on va être prêtes.
Faites-vous-en pas. Quand je vais revenir, je travaillerai pas plus. Le 3 août.
Bon été!
D'ici la rentrée de l'équipe le 3 août, ne manquez pas le retour de Boulevard. 100% parlé. Tout l'été, dès 14h, en semaine.
Fait que d'ici là, oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et ensemble, prenons soin des autres.
Cet été, fais partie de quelque chose de solide avec CANAM. Des projets d'envergure, une équipe fière et un avenir à bâtir. Postule maintenant au canamembauche.com.
L'été bat son plein à la baie de Beauport. Profitez d'un site gratuit, de soirées thématiques, de musique et d'une ambiance festive au bord de l'eau. Avant le FEC, retrouvez le chansonnier Samuel Jacques. Tous les détails sur baie-de-beauport.parquebec.ca.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Pour la vente fourraide de Maxi, j'annonce les prix en chute libre. Les poitrines de poulet à 3,99 $ la livre, 8,80 $ le kilo. Le sirop d'érable à 5,98 $. Le melon d'eau à 3,98 $. Plus de détails en circulaire et chez Maxi.
Pour un été magique en famille, rendez-vous chez BeFly Québec, maintenant ouvert au 6525 Boulevard de l'Ornière. Plongez dans un monde fantastique entouré de centaines de papillons en liberté aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure avec un mini-golf unique, un module de jeu géant et un labyrinthe de miroirs. Une sortie familiale qui émerveillera petits et grands. Réservez votre visite au bfly.ca.
Si les locataires aiment tant recommander Promutuelle Assurance, c'est entre autres pour ses bons conseils.
Et aussi parce que ça vaut le coup.
Oh, vous vous êtes assuré pour pas cher.
Mais hein, puis ça protège mes affaires qui, elles, valent cher.
Surtout que c'est pas l'assurance de votre proprio qui va les protéger.
Et c'est bien pour ça que je l'ai prise.
Votre assurance locataire?
Oui.
Chez Promutuelle?
Oui, monsieur.
Excellent. Alors, pour une assurance locataire à partir de seulement 15,95 $ par mois, choisissez vous aussi l'assureur qu'on aime recommander.
Mais hein.
Des conditions s'appliquent. Promutuelle Assurance est la 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 la.
Du 2 juillet au 22 août, vivez le théâtre d'été au Vieux Bureau de Poste de Lévis. Découvrez à coup de fil une comédie de Maxime Champagne interprétée par des finissants du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Informations et réservations au vieuxbureaudeposte.com.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Emmanuelle Latraverse est avec nous ce soir. Elle est analyste politique. Elle a été journaliste pendant deux décennies. Je ne veux pas la vieillir. Elle a commencé très jeune, je dirais 3-4 ans.
Elle avait 12 ans.
Elle avait 12 ans. C'était une passionnée de politique. Les réseaux sociaux, je veux parler avec vous des réseaux sociaux. Est-ce que ça abrutit les gens au niveau de la politique de par les algorithmes ou ça nous rend plus intelligents quand on veut s'informer sur la politique?
Pas que ça abrutit, c'est que ça cultive nos biais et nos préjugés, puis ça ne nous expose à aucune idée susceptible de nous faire réfléchir.
Ouais.
Alors, moi, c'est ce que je trouve tragique avec les médias sociaux, c'est que nos idées et nos a priori ne seront jamais remis en question si on se contente de lire et de voir ce qu'il y a sur les médias sociaux. Et c'est en étant confronté aux idées des autres qu'on finit par pouvoir avoir une opinion solide et bien fondée. Tu sais, tu compares le A, tu sais, les A, B, C, ah ben finalement, moi, mon idée va de ce côté-là. Mais si tu ne fais que lire des médias sociaux souverainistes qui disent que le gouvernement fédéral, c'est mauvais ou destructeur pour la nation québécoise, mais tu n'as aucune chance de remettre ça en question. De la même façon que si tu ne fais que lire des médias sociaux où la bulle algorithmique multiculturaliste canadienne, mais là, tu vas penser que tous les Québécois qui pensent, tu sais, qui sont en faveur de la laïcité, de remettre en question les paliers d'immigration, c'est des crypto-fascistes. Alors, à un moment donné, je veux dire, tu ne peux pas avoir une société qui fonctionne comme ça. Il y a un côté du monde numérique qui est magnifique. Moi, avant, je ne lisais pas le New York Times, le Guardian, CNN, la BBC, le Figaro à tous les matins. Donc, d'avoir accès à ça, ça permet d'être ouvert sur le monde en entier, mais seulement si tu fais l'effort actif de cultiver un bouquet d'idées dans ton... Tu sais, c'est comme si... Ton fil de médias sociaux, c'est comme un potager. Faut que tu le cultives, faut que tu mettes de l'engrais, faut que tu t'assures qu'il ne penche pas toujours du même bord.
Ouais.
Et c'est ça qui est très difficile, je pense, pour moi, c'est mon métier, fait que c'est correct, là. Mais pour la population en général, c'est ça qui est périlleux, c'est que tu finis par, tu sais, tout le monde penche d'un bord ou de l'autre, mais là, tu vas toujours pencher de plus en plus d'un côté parce que tu n'es exposé qu'à ça. Tu es vraiment dans une bulle mentale. Puis moi, je trouve que c'est ça qui nuit au débat public. Puis qui cultive la polarisation du débat et du discours public en ce moment.
Est-ce que ça a changé la façon de travailler des équipes de communication en politique, selon vous, l'avènement des réseaux sociaux,
ben oui,
sachant que les algorithmes sont là? Parce qu'avant, on cherchait la clip à avoir pour passer au bulletin de 18h à TVA, puis là, ben, c'était un segment de 15 secondes qui était hyper important. Donc, quand le chef allait parler, il fallait qu'il dise exactement cette phrase-là pour être sûr que ça passe, puis que ce soit le journaliste qui prenne cette clip-là. Aujourd'hui,
maintenant, c'est générer la clip qui fait en sorte que ça va générer des clics sur les algorithmes. Donc, une part qui est la même chose, là, on s'entend, là, c'est générer de l'intérêt. Là. Donc, tu cultives ta façon de communiquer de façon à générer un buzz. Avant, c'était le buzz qui allait passer dans le topo. Maintenant, c'est le buzz des médias sociaux. Moi, je pense surtout, cependant, c'est qu'il y a un incitatif à carburer à l'indignation parce que c'est comme ça que sont faits les algorithmes des médias sociaux.
Exact.
Et ça, à terme, c'est malsain pour une société.
On a l'impression que ça va tout le temps mal.
Ben, c'est ça. Puis sérieusement, là, comme je disais à ma fille, des fois, là, regarde chérie, là, t'es pas à Kiev puis t'es pas à Gaza. Là, t'sais?
Non, c'est ça. Faut rationaliser les choses.
C'est ça.
Ouais. C'est compliqué quand on est une journaliste qui suit le beat politique d'avoir une famille au travers de ça. Lorsque vous étiez à Ottawa, est-ce que c'était compliqué?
Oui, c'est compliqué, c'est sûr. Moi, c'est compliqué, mais j'étais pas seule. J'avais un mari, puis tu sais, tu t'organises. Hein?
Ouais.
Tout est une question de choix puis de priorité dans la vie. Moi, j'ai pas de vie. Je vais pas au restaurant. J'ai pas de vie, là. Je vais pas au théâtre, j'ai pas une vie sociale.
Je sors des planchers avec mon mari.
Non, mais tu sais, fait que tu sais, je me lève le matin, on allait porter la petite à la garderie, on était chanceux, la garderie était au Parlement, là, fait que... Puis donc, puis après ça, on rentrait à la maison, puis c'était ça. Donc, tu fais des choix dans la vie, là, et tu organises ta vie. T'sais, en ce moment, j'ai une vie où je vis à moitié à Ottawa, à moitié à Montréal, parce que je veux pas déménager ma fille qui est au secondaire, puis c'est pas grave, là. T'sais, tout est une question de priorité dans la vie. Mais je pense que j'ai eu le luxe, cependant, d'avoir des enfants à une période où de plus en plus, on permet aux femmes qui ont des enfants et qui couvrent la politique certains accommodements, me sont permis maintenant qui ne m'étaient pas permis à une autre époque. Puis ça, c'est une immense différence.
Ouais. Puis il reste
parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui font ce métier-là, puis parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui ont des enfants, qui sont patronnes et qui gèrent des grandes salles de nouvelles, puis qui ont compris qu'à un moment donné, on est supposé être des superwomen, mais on a quand même droit à des accommodements pour ne pas l'être 365 jours par
c'est
année.
Ça.
Moi, sans ces accommodements-là, par moment, de mes patrons, non, j'y arriverai pas.
Vous êtes une passionnée. Ça a été un 60 minutes extrêmement intéressant avec vous. Ça va être un plaisir de vous recevoir dans quelques mois, si jamais on se recroise. Un gros merci d'être passé à l'émission.
Ça fait plaisir. Au revoir.
Emmanuelle Latraverse qui était avec nous, elle est analyste politique pour le réseau TVA. Elle est aussi journaliste depuis bon nombre d'années. Tiens, je vais dire ça comme ça. Salut.
Au revoir.
Bonne soirée tout le monde. On se reparle demain. Ciao.
Marceau, le soir.
La saison est lancée à la baie de Beauport. Plages, activités nautiques, yoga, danse country et chansonniers vous attendent tout l'été au port de Québec.
Faire affaire avec du proprio, ça veut pas dire vendre tout seul. Vous êtes bien accompagné à chaque étape par des gens qui comprennent votre réalité de Québécois, Québécoise, Sherbrookois, Sherbrookoise, Drummondvillois, Drummondvilloise, Grandbien, Grandbienne, Trifluvien, Trifluvienne. Pour ceux que ça fout, ben c'est les gens de Trois-Rivières. Pour vous épauler dans la vente de votre propriété, il n'y a rien comme les coachs en immobilier Duproprio qui savent comment ça se vend ici. Duproprio, vendez bien accompagné.
Du 9 au 12 juillet de 10h à 17h, c'est la grande vente d'entrepôt à Québec. Retrouvez la galerie du meuble à Courcelette et Jardin de Ville sur Charest avec jusqu'à 70 % de rabais sur le mobilier intérieur et extérieur.
T'as reçu des fleurs.
Des fleurs?
Ben oui, regarde, il y a un petit mot aussi.
Félicitations, M. Pépin. On apprécie ce que vous faites. Merci de planter vos arbres loin des fils électriques. Votre cour est très belle, bravo.
Coudonc, ça vient de qui?
C'est signé Hydro-Québec.
Planter ces arbres loin des fils électriques pour éviter des pannes, ça mérite des fleurs.
Boulevard.
102.1.
Vous avez un témoignage, des préoccupations, une situation à dénoncer? Ça nous intéresse. Écrivez à Mathias Turcotte, notre journaliste terrain. citoyen@blvd.fm. 102.1.
Pour un été magique en famille, rendez-vous chez Bifly Québec, maintenant ouvert au 6525 Boulevard de Lormière. Plongez dans un monde fantastique entouré de centaines de papillons en liberté aux couleurs éclatantes provenant des quatre coins du monde. Poursuivez l'aventure avec un mini-golf unique, un module de jeu géant et un labyrinthe de miroirs. Une sortie familiale qui émerveillera petits et grands. Réservez votre visite au bfly.ca.
Bon, OK. Ça filme. Salut mes besties! Êtes-vous prêtes? On se fait un nouveau unboxing Mercado. Ben voyons donc! Ils m'ont mis l'annonceur dans la boîte!
Hey, hey! Salut! Voici vos offres. Un certificat cadeau